Premier jour. Prime. Où l'on arrive au pied de l'abbaye et Guillaume fournit une preuve de sa grande sagacité.
C'était une belle matinée de la fin novembre. Dans la nuit, il avait neigé un peu, mais le terrain était recouvert d'un voile frais pas plus haut que 3 doigts. En pleine obscurité, sitôt après l'aude, nous avions écouté la messe dans un village de la vallée. Puis, nous nous étions mis en route vers les montagnes au lever du soleil. Comme nous grimpions par le sentier abrupt qui serpentait autour du mont, je vis l'abbaye. Ce ne furent pas les murailles qui l'entouraient de tous côtés qui m'étonnèrent, semblables à d'autres que je vis dans tout le monde chrétien, mais la masse imposante de ce que j'appris être l'édifice. C'était là une construction octogonale qui, vue de loin, apparaissait comme un tétragone, figure absolument parfaite qui exprime la solidité et le caractère inexpugnable de la cité de Dieu, dont les côtés méridionaux se dressaient sur le plateau de l'abbaye, tandis qu'au septentrion, il paraissait s'élever des pentes même du mont, d'où il s'innervait à pic. Je dis qu'en certains points, vus d'en bas, il semblait que le rocher se prolongeait vers le ciel, sans solution de teinte et de matière, et devenait à un certain point donjon et tour, ouvrage de géants qui auraient grande familiarité avec la terre et avec le ciel. 3 ordres de verrières disaient le rythme ternaire de sa surélévation, si bien que ce qui était physiquement carré sur la terre était spirituellement triangulaire dans le ciel. À mesure qu'on s'en approchait davantage, on comprenait que la forme quadrangulaire produisait à chacun de ses angles une tour heptagonale, dont 5 côtés s'avançaient vers l'extérieur, 4 donc des 8 côtés de l'octogone majeur produisant 4 heptagones mineurs qui, vus de l'extérieur, apparaissaient comme des pentagones. Et il n'est personne qui ne voit l'admirable concordance de tant de nombres saints, chacun révélant un très subtil sens spirituel. 8, le nombre de la perfection de tout tétragone. 4, le nombre des évangiles. 5, le nombre des parties du monde. 7, le nombre des dons de l'Esprit-Saint. Par sa masse imposante et par sa forme, l'édifice m'apparut, comme plus tard il me serait donné de voir dans le sud de la péninsule italienne Castel Ursino ou Castel dal Monte, mais par sa position inaccessible, il était des plus terribles et capable d'engendrer de la crainte chez le voyageur qui s'en approchait peu à peu. Et heureusement, par cette cristalline matinée d'hiver, la construction ne m'apparut pas telle qu'on la voit dans les jours de tempête. Je ne dirais pourtant pas qu'elle suggérait des sentiments joyeux. Pour ma part, j'en éprouvais de la peur et une inquiétude diffuse. Dieu sait qu'il ne s'agissait pas de fantômes de mon âme immature et que j'interprétais exactement d'indubitables présages inscrits dans la pierre depuis le jour où les géants y mirent la main et avant que la naïve volonté des moines ne s'enhardît à la consacrer à la garde de la parole divine. Tandis que nos mulets avançaient péniblement dans le dernier tournant de la montagne, là où le chemin principal se divisait et donnait naissance à 2 sentiers latéraux, mon maître s'arrêta quelques instants, observant les bas-côtés de la route et la route, où une série de pins sempervirens formait sur une brève distance un toit naturel blanchi par la neige. « Riche abbaye, dit-il, l'abbé aime faire belle figure dans les occasions publiques. » Habitué que j'étais à l'entendre émettre les plus singulières affirmations, je ne l'interrogeais pas. D'autant que, après un autre bout de chemin, nous entendîmes des bruits, et à un tournant apparut une troupe de moines et de servants. L'un d'eux, comme il nous vit, vint à notre rencontre avec une grande urbanité. « Bienvenue, Seigneur, dit-il, et point ne vous étonne si j'imagine qui vous êtes, parce que nous avons été avertis de votre visite. Moi, je suis Remigio de Varagine, le cellerier du monastère, et si vous êtes, comme je le crois, frère Guillaume de Baskerville, il faudra en aviser l'abbé. « Toi, ordonna-t-il en direction d'un de sa suite, remonte et avertis que notre visiteur s'apprête à franchir l'enceinte. » « Je vous remercie, Seigneur Cellerier, répondit cordialement mon maître, et j'apprécie d'autant plus votre courtoisie que pour me saluer vous avez interrompu votre poursuite. Mais n'ayez crainte, le cheval est passé par ici et a pris le sentier de droite. Il ne pourra pas aller bien loin car, arrivé au dépôt des litières, il devra s'arrêter. Il est trop intelligent pour se précipiter le long du terrain abrupt. « Quand l'avez-vous vu ? Demanda le cellerier. « Nous ne l'avons pas vu du tout, n'est-ce pas, Azzo ? Dit Guillaume en se tournant vers moi d'un air amusé. « Mais si vous cherchez Brunel, l'animal ne peut être que là où j'ai dit. » Le cellerier hésita, il regarda Guillaume, puis le sentier, et enfin demanda « Brunel, comment savez-vous ? » « Allons, allons, dit Guillaume. Il est évident que vous êtes en train de chercher Brunel, le cheval préféré de l'abbé, le meilleur galopeur de votre écurie, avec sa robe noire, ses 5 pieds de haut, sa queue somptueuse, son sabot petit et rond, mais au galop très régulier. Tête menue, oreille étroite, mais grands yeux. Il a pris à droite, je vous dis, et dépêchez-vous en tout cas. » Le sellerier eut un moment d'hésitation, puis il fit signe au sien et se précipita dans le sentier de droite tandis que nos mulets se remettaient à monter. Alors que, piqué de curiosité, j'allais interroger Guillaume, il me fit signe d'attendre. Et de fait, après quelques brèves minutes, nous entendîmes des cris de jubilation et au tournant du sentier réapparurent moines et servants qui ramenaient le cheval par le mort. Ils repassèrent à côté de nous en continuant de nous regarder d'un air plutôt ahuri, et ils nous précédèrent sur le chemin de l'abbaye. Je crois que Guillaume ralentissait le pas de sa monture pour leur permettre de raconter ce qui était arrivé. De fait, j'avais eu l'occasion de me rendre compte que mon maître, à tous égards homme de suprême vertu, s'abandonnait au vice de la vanité quand il s'agissait de donner la preuve de son acuité d'esprit, et comme j'en avais déjà apprécié les dons de subtil diplomate, je compris qu'il voulait arriver au but précédé d'une solide renommée d'homme savant. Et maintenant, dites-moi, à la fin je ne sus me retenir, comment avez-vous fait pour savoir ? Mon bon Atso, dit le maître, j'ai passé tout notre voyage à t'apprendre à reconnaître les traces par lesquelles le monde nous parle comme un grand livre. Alain de Lille disait que « Omnis mundi creatura, quasi liber et pictura nobis es in speculum ». Et il pensait à l'inépuisable réserve de symboles avec quoi Dieu à travers ses créatures nous parle de la vie éternelle. Mais l'univers est encore plus loquace que ne le pensait Alain, et non seulement il parle des choses dernières, en ce cas-là il le fait d'une manière obscure, mais aussi des choses proches, et alors là d'une façon lumineuse. J'ai presque honte de répéter ce que tu devrais savoir. Au croisement sur la neige encore fraîche, se dessinaient avec une grande clarté les empreintes des sabots d'un cheval, qui pointaient vers le sentier à main gauche. À belle et égale distance l'un de l'autre, ces signes disaient que le sabot était petit et rond, et le galop d'une grande régularité. J'en déduisis ainsi la nature du cheval, et le fait qu'il ne courait pas désordonnément comme fait un cheval emballé. Là où les pins formaient comme un appentis naturel, des branches avaient été fraîchement cassées, juste à la hauteur de 5 pieds. Un des buissons de mur, là où l'animal doit avoir tourné pour enfiler le sentier à sa droite, alors qu'il secouait fièrement sa belle queue, retenait encore dans ses épines de longs crins de jais. Enfin, tu ne me diras pas que tu ne sais pas que ce sentier mène au dépôt des litières, car en grimpant par le tournant inférieur, nous avons vu la bave des détritus descendre à pic au pied de la tour orientale, laissant des salissures sur la neige. Et d'après la situation du carrefour, le sentier ne pouvait que mener dans cette direction. Oui, dis-je, mais la tête menue, les oreilles pointues, les grands yeux. Je ne sais pas s'il en est pourvu. Mais à coup sûr, les moines le croient fermement. Isidore de Séville disait que la beauté d'un cheval exige « ut sit exigum caput, et sicum propre pel ossibus aderente, aures breves et argutae, oculi mani, nares patulae, erecta cervix, coma dansa e cauda, ungularum solidate fixa rotunditas. » Si le cheval dont j'ai deviné le passage n'avait pas été vraiment le meilleur de l'écurie, on aurait peine à expliquer pourquoi ne le poursuivaient pas les seuls palefreniers, mais que ce soit dérangé le sellerier en personne. Et un moine qui juge un cheval excellent, au-delà des formes naturelles, ne peut pas ne pas le voir exactement comme les auctoritates ne le lui ont décrit. Surtout si, et là il sourit avec malice à mon endroit, c'est un docte bénédictin. Entendu, dis-je. Mais pourquoi Brunel ?
Que l'Esprit Saint te mette un peu plus de plomb dans la tête, mon fils, s'exclama le maître.
Quel autre nom lui aurais-tu donné si le grand Buridan en personne, qui est en passe de devenir recteur à Paris devant parler d'un beau cheval, ne trouva non plus naturel?